Des apprentis terroristes aux populistes confirmés.
Des amitiés improbables aux accords détestables.
Toute l'actualité.
Ou presque.
Dans Carrément Méchant. I stare at the Lord, it's Wednesday morning. It needs a cut, but I'll leave it growing. All different sizes and shades of green. Slashing it down just seems kind of mean.
Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce 18e épisode de Carrément Méchant, le dernier de l'année 2015. Salut Émilie.
Salut Yann, comment vas-tu depuis Genève ?
Eh bien je vais super bien depuis Genève, nous sommes le 2 décembre 2015. Rappelle-nous, où es-tu toi ?
Moi je suis à Prague, hein. C'est pour le côté international.
Évidemment, avec la magie d'internet on peut discuter de l'actualité internationale et suisse pendant 30-40 minutes. Je prends un risque en disant ça, je sais pas combien de temps l'épisode va durer. On va faire notre petit programme qui va évidemment commencer par l'actualité internationale et je te le propose par un petit peu de droit international.
Ah non.
Si, dès le matin, hein, on aime ça, nous.
Oui, c'est trop tôt pour le droit international. Yann.
Voilà. On va parler des TPP, tu vas voir, on va pouvoir s'énerver un peu. Personne n'aime parler des accords internationaux. Personne. C'est chiant. Il faut souvent se taper des centaines de pages lorsque les documents sont rendus publics. Et c'est pas excitant comme domaine. C'est pas très concernant non plus. Parler de la neige qui tombe en hiver, des canicules en été, ça parle beaucoup plus au Pékin moyen. Mais là, j'ai trouvé l'astuce idéale pour vous parler du nouvel accord à la mode. Il va toucher à vos droits sur Internet. Forcément, je parle à un public de jeunes adultes. Tac, l'astuce est bien trouvée. Je vous ai hameçonné. Vous m'écoutez, vous ne me lâchez plus. Mais alors, de quoi parle-t-on ? Eh bien, on parle du TPP, ou Trans-Pacific Partnership Agreement, signé le 5 octobre 2015 par les émissaires de 12 pays partenaires. L'Australie, le Brunei, le Canada, le Chili, les États-Unis d'Amérique, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam. Le TPP, c'est d'abord deux caractéristiques assez classiques de ce genre d'accord. Premièrement, ce texte est fortement désiré par les États-Unis d'Amérique. De fait, c'est la continuation d'ACTA, l'accord commercial anti-contrefaçon, rejeté par le Parlement européen en 2012 à cause d'un grand manque de transparence dans sa création, ainsi que des dispositions qui allaient à l'encontre de nombreux droits fondamentaux édictés dans les différents pays membres. Deuxièmement, TPP a été conçu dans le secret le plus complet, exactement comme ACTA. Une première version du texte a fuité en 2011 et a prouvé que les Américains étaient tout simplement en train de préparer un ACTA 2 sans y impliquer l'Union Européenne, histoire que la pilule passe plus facilement. Il est presque inutile de dire qu'à ce stade, ce secret autour de la conception du TPP a servi à mettre la presse et les groupes de pression de la société civile à l'écart, le champ complètement libre aux intérêts privés et à leur porte-flingue lobbyiste. Le Trans-Pacific Partnership Agreement, c'est plusieurs milliers de pages. Il est donc bien difficile d'en offrir un résumé un tant soit peu honnête ou une véritable critique, quand bien même je baïonnerais Émilie pour pouvoir continuer à causer de tout ça durant le reste de l'émission.
Mais je suis à Prague, Yann, t'as pas tout compris. Hein.
Oui, mais j'ai des agents là-bas.
Ah.
Radio Kawa, ça va très loin. Depuis l'association et depuis le Patreon, ça va. Tu sais qu'on a des gens, notamment en Chine, on a des Yakuza au Japon, on a plein de monde partout à notre botte, maintenant qu'on a l'argent de se les payer. Bon, bref, on va donc se cantonner à ce qui touche Internet et aux questions de propriété intellectuelle qui lui sont depuis de très nombreuses années contingentes. Le premier délice du TPP n'est pas le moindre. Cet accord voit l'institution d'une sorte de cour de justice spécifiquement instituée pour contrôler le respect des accords par toutes les personnes, morales comme physiques, venant des pays concernés par cet accord. L'ISDS, c'est son nom, permettra aux ayants droit de les attaquer, les personnes morales et physiques susnommées, à travers un système qui passe outre les dispositions d'un pays, y compris au-dessus d'une loi passée par le Parlement, le gouvernement ou même votée par le peuple d'un pays pour seulement prendre en compte les dispositions du TPP. Le TPP prévoit d'appliquer la conception américaine du droit d'auteur, et là aussi de deux façons. D'abord, et c'est un bon exemple pour illustrer ce que je viens d'expliquer par rapport à cette cour spécifique, le temps nécessaire qu'une œuvre tombe dans le domaine public sera de 70 ans, contre 50 dans des pays comme le Canada. Ainsi, même si le Canada décide de changer son domaine public pour que les œuvres y tombent après, mettons, 40 ans, voilà, Justin Trudeau décide de faire ça, il sera toujours possible pour une société canadienne d'attaquer l'usage d'une œuvre déposée il y a moins de 70 ans via l'ISDS. Ensuite, ça veut dire que tous les pays du TPP récupéreront les dispositions du DMCA, c'est-à-dire le Digital Millennium Copyright Act, cette loi controversée permettant aux ayants droit de demander le retrait immédiat de contenus désignés comme allant à l'encontre de leur propriété intellectuelle en allant régulièrement à l'encontre du fair use et de la copie privée. En effet, toute personne qui tente de passer outre la protection numérique d'œuvres et de logiciels, les fameux DRM, Digital Rights Management, se rendent coupables d'un crime, quand bien même il le fait dans son coin, sans rien partager et sans rien voler à qui que ce soit. Bref, ce qui est bon pour les États-Unis semble bon pour le monde. On note aussi le fait qu'un ayant droit pourra poursuivre un fournisseur d'accès à Internet pour lui demander de couper la connexion d'un de ses clients dans le cas où ce dernier serait considéré comme un pirate récidiviste, parfois sans beaucoup de preuves. Heureusement, on ne peut pas faire des milliers de pages d'inepties sans se tirer quelques balles dans le pied. Et cette balle, c'est de faire en sorte que les États ne peuvent plus creuser dans le code de logiciels développés dans d'autres pays des TPP. En termes de cybersécurité, on aura vu mieux. Un code fermé à ce point-là, c'est un code dont on ne connaît pas le comportement. Du tout. Vous les voyez venir, les belles fuites de données américaines vers le Pérou, le Chili ou la Nouvelle-Zélande ? Dans mon coin, je ricane. Enfin, quoi qu'il en soit, dites-vous que ce n'est pas perdu pour les 12 pays des TPP. En effet, avant d'entrer en vigueur et de retirer une bonne part de son pouvoir au gouvernement, parlement et habitants de ces pays, chacun devra ratifier le traité de la façon prévue par leur constitution. Pour la plupart des pays, ce sont les parlements qui vont devoir voter. Ceux-ci sauront peut-être mieux défendre les intérêts des citoyens qui, contrairement aux auteurs du TPP, les ont élus. On peut espérer, puisque c'est déjà arrivé en 2012, qu'au Parlement européen, face à l'ACTA, qu'ils voteront contre. Ça, en tout cas, maintenant, le pouvoir est dans leurs mains. Et on va passer de choses tout à fait institutionnelles à des choses qui perdent tout contrôle car on passe dans le chaos du monde du terrorisme.
Je ne pouvais pas en fait vous laisser vous parler de l'actualité de ce dernier mois sans parler de terrorisme. Alors oui, c'est une actualité plutôt déprimante, je suis d'accord.
Voyageons en France, ouais.
Voilà, non, alors non, en fait, je ne vais même pas mentionner les événements marquants du dernier mois.
État d'urgence.
On risque de m'accuser d'en mentionner certains et pas d'autres. Mm-hmm. Alors, au lieu de perdre du temps à expliquer que non, on n'est pas un salaud si on se sent plus touché par les malheurs de son voisin que par ceux du voisin de la tante de la belle-fille de son petit-neveu, moi, j'avais envie de vous parler d'une perspective un peu moins mise en avant dans les médias ces derniers temps, avec un petit dossier que je vous ai préparé avec amour et qui s'intitule « Les terroristes sont-ils stupides ?» Alors j'avais commencé à vous faire un top 5 et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup trop de choses à raconter et je vous ai même fait un top 10.
Oh.
Donc top 10 des attaques les plus bêtes du 21e siècle. Alors petit préambule, j'en entends déjà qui haussent des sourcils indignés. On ne peut pas rire du terrorisme. Et oui, les haussements de sourcils sont sonores et ne connaissent pas de barrières spatio-temporelles. Mais chut. On s'appelle pas carrément méchant pour rien. Donc, je m'en fiche et je vais vous offrir l'anti-histoire du terrorisme, celle des attaques ratées et des accidents embarrassants et qui au final mériterait le labique de epic fail plutôt que d'attaque terroriste. Alors avant toute chose, j'imagine bien que la plupart d'entre vous ont déjà fait l'amalgame, malgré tous vos petits hashtags bien pensants, mais je précise quand même que je vous parlerai ici uniquement des attaques terroristes menées au nom d'une conception radicale, violente et illettrée du djihad islamique. Parce que non, j'aurais pas le temps de m'attaquer aux bêtises des suprémacistes blancs ou des extrémistes de gauche ou de tous les autres.
On a des siècles de conneries à creuser dans ce cas-là.
Voilà, peut-être une prochaine fois. Mais assez de blabla, commençons par le numéro 10. J'avais envie de vous parler de l'attentat raté de Londres du 21 juillet 2005. Un groupe de 5 terroristes avait préparé une série d'attentats à la bombe dans les transports publics londoniens. Malheureusement, seuls les détonateurs ont explosé et pas les bombes elles-mêmes. Au lieu de faire un gros boom, ils ont fait des petits feux d'artifice. Apparemment, ils avaient utilisé le mauvais genre de peroxyde d'hydrogène dans leurs petits jouets et se sont tous fait arrêter. La seule victime a été reportée comme étant un homme qui a fait une crise d'asthme en quittant l'un des bus dans lesquels une attaque a eu lieu. Numéro 9. En 2000, dans le golfe d'Aden, des membres d'Al-Qaïda avaient planifié de faire exploser le navire de guerre américain, le USS The Sullivans. Ils avaient décidé de charger un petit bateau de beaucoup d'explosifs, de faire naviguer leur petit bateau vers le gros bateau et de faire exploser le petit bateau. Seulement, ils n'avaient pas tout à fait compris les lois de la physique, ce qui est que quand on met beaucoup d'explosifs sur un petit bateau, les explosifs, c'est lourd et le petit bateau coule. Donc, à peine ayant quitté leur rivage, leur embarcation a coulé.
La logique des mecs, c'était « Je comprends pas, ça marche pour les migrants !» Pardon.
Oui, alors... Voilà, les migrants ont dépassé les lois de la physique, d'une façon que les terroristes n'ont pas comprise. Mais bon, Al-Qaïda, c'était Al-Qaïda cette fois, donc c'est pas du genre à baisser les bras. Donc, on passe au numéro 8. Le même groupe, ayant réussi à décamper incognito la première fois, s'y remettent un peu plus tard en visant cette fois un autre navire, le USS Cole. Si vous êtes un peu familier avec l'histoire du terrorisme, vous savez que c'est une attaque qui s'est déroulée en faisant 17 victimes. Et à l'époque, pour Al-Qaïda, c'était un bon bilan. C'était leur premier gros attentat depuis 1998, et ils s'étaient dit que ça ferait une sacrée pub de publier la vidéo de l'explosion. Seulement, un type nommé Farhad Al-Qusso, qui était chargé de filmer le gros boom, n'était pas là. Ce jour-là, il n'a pas entendu son réveil. Et il a donc loupé le rendez-vous. Comme quoi, ça arrive à tout le monde. Et puis pour la petite histoire, deux des terroristes impliqués dans l'attentat de l'USS Cole ont été mis sous surveillance américaine après ces événements. Et on les a retrouvés un peu plus tard, le 11 septembre 2001, en miettes au pied du Pentagone. Ça me rappelle Paris. Mais passons à autre chose. Toujours en Amérique, en 2007, dans le New Jersey, 5 types ont prévu d'attaquer une base militaire avec leurs fusils d'assaut au nom du djihad. Alors, ils avaient prévu de s'infiltrer déguisés en livreurs de pizza, c'est original, et ils s'étaient dit que ce serait une bonne idée de faire un trailer pour leur attaque. Alors, ils se sont filmés dans leur camp de base, dans une forêt, en train de shooter leur gun en criant « Allahu Akbar » et en annonçant leur attaque. Seulement, les types, c'était pas des lumières. Et je vous jure que je ne rigole pas, ils ne savaient pas comment transférer la vidéo depuis leur appareil sur un DVD. Donc, ces types arrivent avec leur appareil photo ou leur caméra, on ne sait pas, à Circuit City, qui est une boutique d'électronique et de services, en leur demandant de graver la vidéo sur un DVD. L'employé qui visionne la vidéo et qui voit des mecs qui tire des fusils dans la forêt en annonçant une attaque sur une base militaire, a donc appelé la police et tous les terroristes se sont fait avoir. C'est aussi simple que ça. Numéro 6. À Times Square, en 2010, on est passé tout près d'un massacre lorsqu'un type affilié à Al-Qaïda a parqué son van rempli d'explosifs au milieu de la place, a allumé les détonateurs et est parti en courant. Alors, il avait réussi à échapper au service secret, il avait réussi à construire une bombe et c'était finalement, d'un point de vue terroriste, plutôt une bonne idée. Il y a beaucoup de monde à Times Square, ça aurait été plutôt mal vu. Seulement, c'est un peu compliqué de construire une bombe et il n'a pas branché les fils correctement. Alors les New Yorkais ont été quittes pour un peu de fumée et beaucoup de panique. Et on passe, je vais sauter directement à celui-là. Donc, en 1999, un autre, c'était un peu plus tôt, mais c'était déjà à la mode, en fait, de mettre des bombes dans des voitures. Mm-hmm. Donc, un autre type, Abdel Ressam, un citoyen français vivant au Canada, a décidé de faire exploser l'aéroport de Los Angeles. Alors, il fallait quand même qu'il aille depuis le Canada jusqu'à Los Angeles pour ça. Il a rempli sa voiture d'explosifs, a conduit depuis le Canada, a pris un ferry sur la côte ouest. Pas de problème aux douanes. Mais il était un peu nerveux et il voulait être la dernière voiture à quitter le ferry, ce qui personne ne comprend pourquoi il a voulu faire ça, puisque c'était un comportement un peu étrange, puisque sa voiture était au milieu des autres, en fait, quand il est entré. Donc, les autres voitures ont dû passer autour de lui. Un agent de sécurité l'a trouvé un peu bizarre et a décidé de faire une fouille de routine sur sa voiture. Alors, forcément, ils ont trouvé tous les joujoux explosifs. Et à ce moment-là, lui, il décide de partir en courant. Donc voilà, il s'est fait arrêter parce que il était un peu bête.
Oui, à pied, je dois admettre, ça doit pas être facile.
Voilà,
pour
alors
fuir,
c'est oups, si je cours très vite, peut-être qu'il oublie que je voulais planter des bombes.
Je suis Flash Gordon.
Alors, je passe au numéro 4 à Paris. À Paris, je vais quand même vous parler de Paris. Le 13 novembre dernier, les attaquants du Stade de France ont, selon toute vraisemblance, misérablement loupé leur attaque. S'il n'est pas sûr qu'ils aient vraiment eu l'intention d'entrer dans le stade, on n'est pas sûr qu'ils avaient des billets ou non, et on soupçonne qu'ils voulaient se coordonner afin de créer un mouvement de foule depuis les portes du stade en direction du métro, et un autre de leurs collègues serait dans la direction du métro et se ferait exploser à ce moment-là. Alors ils se font refouler, parce qu'apparemment, enfin, ils pensaient que c'était facile d'entrer dans le Stade de France avec des gilets d'explosifs alors que le président de la République assistait à un match de l'équipe nationale. Ça ne me paraît pas la preuve d'une intelligence supérieure. Mais alors, au lieu d'attendre la fin de la rencontre, ou d'avoir un plan B, ils se font exploser devant les portes.
Ceci dit, si je peux prendre la défense de Daesh, qui est une phrase que je ne dirai pas souvent dans ma vie, sauf erreur, ils annoncent juste, à mon avis, ils annoncent pas extrêmement en avance que le président de la République va assister au match. Et
c'est
je
vrai.
Pense que l'attaque a été planifiée avant l'annonce qui est normalement très furtive de « Au fait, son Altesse Sérénissime François Hollande sera présent lors du truc. »
Mais n'empêche que François Hollande ou non, il n'est certainement pas facile d'entrer dans le Stade de France lorsque l'équipe nationale y joue quand on n'a pas de billet.
Et puis passer les portiques, voilà, c'est un peu chou, effectivement. Je veux dire, il y a déjà suffisamment de bordel sans qu'il y ait des terroristes dans les... Comment dire, dans les gradins des stades de football pour que les gens qui sont en charge des stades se méfient, tu vois.
Donc, nous ne pouvons que hausser nos sourcils dans l'incompréhension la plus totale.
Et puis... Exact.
Et donc ensuite, boum boum devant les portes, voilà, c'est... Ouh, ça fait peur. Alors moi, ce que je comprends pas avec ça, c'est que les médias, la plupart des médias que j'ai lus en préparant ce dossier ont titré l'événement « Stade de France, 4 victimes, dont 3 terroristes ».
Oui, oui.
Je crois pas que c'est possible d'être perpétrateur et victime de son propre attentat. Dans ce cas, ça s'appelle soit un suicide, ou selon l'humoriste Thomas Wiesel, que je vais citer ici, c'est un accident de travail.
Ouais, ouais, c'est clairement c'est un accident de travail, mais de la part du journaliste qui est passé de 4 morts à 4 victimes.
Donc moi, je suis pas sûre que ça ramène 72 vierges au paradis. Numéro 3. Retour en 2007 à Glasgow, en Écosse. Bilal Abdullah et Café Lamed décident de terroriser l'aéroport international de Glasgow. Encore une fois, en mettant des explosifs dans leur voiture, en l'occurrence des bombes de propade, ils se sont dit qu'ils allaient en fait conduire très vite avec leur Jeep à travers les portes vitrées du hall de l'aéroport de Glasgow.
Et quand ce petit bolide atteindra 80 miles à l'heure...
Devant les portes vitrées du hall de l'aéroport, il y a ce qu'on appelle des bornes de sécurité. Vous savez, des piliers qui font à peu près 1m30 de haut, qui sont marqués de jaune pétant pour qu'on ne puisse justement en fait... pour qu'on ne rentre pas dedans par accident avec sa voiture.
C'est con,
qui sont prévus justement pour éviter qu'on puisse conduire des engins dans le hall d'entrée de l'aéroport. Parce
c'est
que
con.
Ce n'est pas pour ça qu'on construit des halls d'entrée, c'est pour y aller à pied. Donc apparemment, les terroristes n'avaient même pas été en reconnaissance à l'aéroport de Glasgow à l'avance et ont donc planté leur Jeep contre les bornes. Alors, à quelques mètres des portes d'entrée, ce qui était très loin de toute victime potentielle. Mmh. Alors, le propane a quand même explosé, mais ni l'un ni l'autre des terroristes n'ont été tués. Ce qui vous dit quand même quelque chose sur la qualité de la bombe qu'ils avaient décidé de construire. Mmh. La seule victime, outre la Jeep, ça a été le tendon du pied d'un type qui se trouvait à l'aéroport.
Oh, le manque de bol,
non,
quoi.
Je vous explique. Un des terroristes qui était dans la Jeep a pris feu, forcément, puisque des bonbonnes de propane ont explosé dans sa voiture. Il sort de la Jeep, il se met à courir en direction du hall, et on ne sait pas très bien comment ça s'est passé, s'il tombe par terre ou pas, mais toujours-t-il que ce type, un passant, comprend qu'il y a eu un attentat terroriste, il voit l'un des terroristes qui court vers lui, et le mec, il lui met un énorme coup de pied dans les pieds. Imaginez la satisfaction. Il s'est déchiré le tendon en faisant ça, et par après... Ce monsieur a reçu la médaille d'honneur de la reine pour son action. Les deux terroristes ont été arrêtés. Numéro 2. Le shoe bomber.
Ah.
Encore une histoire qui aurait pu faire froid dans le dos, mais qui a échoué pour cause de bêtises. Retour cette fois-ci en 2001. Richard Reed, toujours un de ces charmants personnages qui sont décidés à faire mourir plein de gens pour faire triompher la cause du djihad, enfin de leur compréhension du djihad. Donc Richard Reed s'est embarqué en décembre 2001 sur un vol Paris-Miami avec une jolie bombe artisanale cachée dans sa semelle. Il faut quand même lui donner ça. C'était un coup de génie de réussir à construire des explosifs qui pouvaient faire tomber un avion et qui tenaient dans la semelle de sa chaussure. Alors il devait allumer le détonateur avec une allumette et boum, plus d'avion. L'avion qui tombe, boum, plus de gens par terre. Seulement, il n'avait pas pensé à une chose. Et devinez, qu'est-ce que c'était ? La transpiration de ses pieds. En effet, il n'a pas réussi à allumer le détonateur puisque le détonateur était rendu humide par la sueur de ses petits petons. Et donc, les autres passagers ont vu un type qui essayait désespérément de mettre le feu à sa chaussure. Il a été rapidement méprisé aussi d'ailleurs, et arrêté presto. Et on arrive là au top 1 des attentats qui auraient pu être dramatiques s'ils n'avaient pas été ridicules. Je veux parler du terroriste à la culotte. Alors, je sais pas si vous en avez entendu parler, on ne l'appelle pas assez comme ça, en fait. C'est l'attentat du vol Amsterdam-Detroit du 24 décembre 2009. Donc, Oumar Farouk Abdmoultalab, excusez-moi, espérait aussi aller droit au paradis pour retrouver ses 72 promises. Voilà. Mais à la place, il s'est brûlé les parties génitales.
Ah bah, ça va pas, ça va. Pour citer Bourville, ça va bien moins marcher maintenant. Hein.
Oui, alors... Mais en fait, il est même pas allé au paradis, du coup. C'était un échec sur toute la ligne. Mais je vous explique. Il avait fabriqué une bombe chimique qu'il avait attachée, en fait, qu'il avait cousue à l'intérieur de son slip. C'était un mélange de produits auquel il devrait injecter un autre mélange avec une seringue au moment propice. Et puis les deux choses réagiraient ensemble et boum. Seulement voilà, le produit n'explose pas, mais prend feu dans son calbar. Et les passagers voyant le caleçon d'un type prendre feu sont un peu abasourdis, mais maîtrisent
rapidement. What a hot guy!
Voilà, mais maîtrisent rapidement le terroriste qui est évidemment arrêté et qui se retrouve en prison à vie. Plus tard, il s'est avéré que la raison pour laquelle la bombe n'a pas pris est qu'il avait porté son slip explosif pendant, tenez-vous bien, pendant 3 semaines, en l'enlevant seulement pour se doucher. Dans ces conditions d'hygiène déplorables, la qualité des produits cousus à son slip aurait largement baissé, ce qui a causé la bombe à ne pas marcher au moment précis. Il gagne le prix de l'attentat le moins glamour. Enfin, jusqu'à ce que les explosifs suppositoires prennent le relais. Je crois pas qu'on se réjouit. Mais enfin, tout ça pour vous dire, c'est qu'on peut vous raconter tout ce qu'on veut sur le terrorisme, on peut vous parler du cerveau des attentats, on peut vous parler de gens très intelligents. Et je ne nie absolument pas le fait.
De professionnels.
Voilà, il y a effectivement des gens très intelligents qui sont derrière tout ça et qui ont des intentions tout à fait méprisables et regrettables. Mais la plupart de ces gens sont juste des abrutis les plus complets. Et je trouve qu'on ne parle pas assez de toutes les fois où leurs plans ont foiré misérablement.
Merci.
Et même dans le cas de Paris, ainsi que dans le cas du 11 septembre, si vous cherchez un peu, il y a énormément, en fait, quand on vous raconte toutes les failles des systèmes de sécurité dans lesquels les terroristes ont pu se glisser pour commettre leurs actes. Alors, bien sûr, c'est un problème par rapport à la qualité des services de sécurité. Je ne dis pas ça du tout, mais imaginez, les terroristes ont joué, ils ont parié sur le fait qu'ils allaient passer dans les mailles du filet. C'est un peu débile, on ne peut pas faire un attentat en se disant « Bon, ben, j'espère que j'arriverai à passer la frontière parce que tous les douaniers sont des idiots.
» Oui et non, parce qu'après, je veux dire, on est dans un cas de figure où, par exemple, l'État islamique a suffisamment de monde apparemment à envoyer pour qu'on puisse en gâcher une petite dizaine, quoi. Enfin, c'est...
Pour partir du fait qu'ils vont réussir à mener leur attaque jusqu'au bout, il faut quand même tabler sur... une bonne dose de chance.
Ah, bien sûr, bien sûr.
Voilà. Mais... Et puis quand vous mélangez une bonne dose de hasard avec une bonne dose d'abrutis complet, on n'arrive pas souvent à des attaques qui réussissent. Et
Comme quoi, le département RH de Daesh, il n'est pas encore là. Hein.
Voilà, non, mais je vous conseille de garder en mémoire tous ces événements absolument ridicules. Hein. Parce que c'est ça, en fait, la vraie face du terrorisme islamique. C'est des types complètement frappés qui font des choses ridicules.
Effectivement.
Alors voilà, moi je vais vous laisser tranquille avec mes histoires de terrorisme pendant un moment. Et j'espère que je vous ai quand même fait un peu changer vos idées sur la réalité de cette menace.
Exactement. Quant à nous, on va attaquer un petit peu l'actualité suisse maintenant dans cette partie-là de l'émission. Et je vais commencer par un petit voyage dans le canton du Valais. Entendu Valais. Alors, à quand remonte la dernière fois que vous avez vu la gauche, le gouvernement et la droite populiste faire front commun sur une mesure politique ? Si vous vivez hors de Suisse, ça doit probablement faire depuis la naissance de Jeanne Calment, qui n'est plus toute fraîche. Si vous êtes en Helvétie, par contre, ça arrive de temps en temps. Dans le canton du Valais, début 2014, c'est une décision du tribunal fédéral qui a secoué l'échiquier politique. En effet, le système d'élection aux élections législatives du canton ne respecte pas l'impératif de proportionnalité requis par la constitution du pays. Le découpage du Valais en districts, certains moins peuplés que d'autres, rend la proportion nécessaire de voix pour être élu dans certains districts très peu peuplés ridiculement élevée, jusqu'à être qualifiée de proportion soviétique par un journaliste de la radio-télévision. l'invasion suisse. Le tribunal fédéral a donc sommé le canton du Valais de trouver une solution à ce problème. Pour le gouvernement cantonal, c'est-à-dire le Conseil d'État valaisan, on a le temps de voir venir. Les prochaines élections législatives cantonales sont programmées pour 2017, ce n'est donc pas la priorité. On dirait le commissaire Bialès de la Cité de la Peur sommant les journalistes de laisser faire la police son travail. Toutefois, les partis minoritaires dans le Valais, à savoir l'UDC, célèbre parti de droite populiste, ainsi que le Parti Socialiste et les Verts, eux situés à gauche, ces trois partis donc ont décidé de faire front commun et de pousser en avant une modification des règles de jeu électoral avec l'initiative « Chaque voix compte ». Afin d'aplanir le découpage et de mieux représenter les électeurs tout en respectant les traditions du découpage à district, « Chaque voix compte » propose l'ajout d'une double proportionnelle. D'un côté, les districts, et de l'autre, une distribution de ces districts en trois grandes régions, le Haut-Valais, le Bas-Valais et le Centre. Tout d'abord, les listes, c'est-à-dire les partis, cumulent l'ensemble des voix exprimées pour elles dans leur région. Elles gagnent ainsi un certain nombre de sièges par région. Ensuite, les partis attribuent ces sièges, district par district, aux différents candidats. C'est pas simple, mais ça suit une certaine logique. Par contre, en l'expliquant, on se rend compte d'un truc évident. C'est un enjeu vraiment difficile à présenter aux gens. On parle ici d'une disposition qui n'intervient qu'une fois tous les 4 ans, qui ne touche que des partis minoritaires et par-dessus le marché, d'un problème qui sera de toute façon corrigé d'une manière ou d'une autre d'ici les élections de 2017, tribunal fédéral oblige. Alors, malgré la petite surprise de voir les ennemis de toujours, l'UDC, le PS et les Verts, s'associer, l'initiative s'est soldée par un échec certain. Sur cet objet, seuls 29,5% des Valaisans jouissant du droit de vote se sont exprimés et l'ont refusé, à 40 000 voix contre moins de 20 000. Tout le monde s'en fout et ceux qui ne s'en fichent pas la refusent. Finalement, c'est aussi ça la démocratie, le droit de s'en foutre.
Il y a une chose dont on ne s'en fout pas.
Voilà, parce que c'est quand même qui va devenir le septième ministre.
Conseiller fédéral, le septième nain de Blanche-Neige.
Exactement.
Voilà.
Qui peut accéder, rappelons-le, à la fonction suprême, une fois par an est élu le vice-président, qui l'année suivante devient président. Donc un des sept ministres.
Voilà, en fait, en Suisse, nous avons
devenir président.
Plus ou moins sept premiers ministres qui s'occupent de choses différentes.
Oui.
Et donc, après les élections du Parlement en novembre, Evelyn Widmer-Schlumpf, qui n'est donc pas un Schtroumpf, mais une de nos conseillères fédérales, et ne vous moquez pas, c'est pas facile à porter. Va donc quitter le Conseil fédéral et c'est un élu UDC qui va la remplacer.
Oui.
L'UDC, on ne vous le présente plus, on vous en a assez parlé, mais on vous le présente quand même. C'est notre super parti de droite solide qui a l'audace de s'appeler Union démocratique du centre.
Je tiens à préciser, vu que tu dis notre, qu'on n'est pas encarté, qu'on n'a rien à voir avec ce parti, mais...
Oui, mais ben, en tant que citoyen helvétique...
T'es encarté nulle part, d'ailleurs, Émilie, il me semble.
Non.
Non, voilà, moi non plus. Non, mais c'était juste pour savoir, pour le coup, mais... Juste pour ne pas dire de conneries.
Je crois que ça n'arrivera pas de sitôt non plus.
Je pense pas non plus.
Mais donc l'UDC, ils sont tout contents parce qu'ils auront enfin de nouveau deux sièges au Conseil fédéral. Alors, ils ont de bons arguments, il faut avouer, c'est le premier parti du pays. Mmh. Ils regroupent à peu près 30% des électeurs. Et de fait, selon la formule magique, je vous invite à chercher sur Google « formule magique suisse
oui. ».
C'est un peu moins glamour que ce que vous pensez.
On en parle dans l'épisode de l'année dernière, d'ailleurs.
Oui, alors magique, il faudrait retrouver quel numéro c'est.
L'épisode spécial suisse. Cherchez l'épisode spécial suisse sur radiokavo.com.
Voilà. Et donc, ils pourront de nouveau avoir deux trônes de fer qui, au pays de Heidi, valent bien mieux qu'un. Donc, qui c'est qui va occuper le septième siège de Pernéros? J'assume tout à fait ce jeu de mots. Je vais vous présenter les trois candidats. Alors, il faut déjà savoir, ce sont tous des hommes, des vrais. Nous avons en premier Monsieur Guy Parmelin, 56 ans. Agriculteur, viticulteur, vaudois. Alors, on apprend qu'il est agriculteur, viticulteur, certes, mais à 20%, parce qu'il faudrait pas être trop proche de la terre non plus, hein. Bon vivant, on le qualifie le plus souvent dans les médias comme ayant beaucoup de bonhomie. Alors ça vous explique beaucoup de choses, enfin ça vous révèle beaucoup de choses sur le côté glamour de la politique suisse. C'est ça, fait pas rêver les électeurs, un agriculteur, viticulteur, bonhomme. Alors, président de la section vaudoise de l'UDC pendant 4 ans, il a un petit problème à Berne, c'est qu'il ne parle pas le suisse allemand, et ça ne va pas du tout. Il peut parler apparemment le bon allemand, mais si mal que ses fautes, je cite, font rire sa femme. Alors sa femme, parlons-en, pour une raison obscure, elle est en photo sur son site de campagne. Alors je dis pas le contraire, mais on met au moins une légende, on met quelque chose. Donc sur le site de campagne de M. Guy Parmelin, il a 3 photos personnelles. Sa maison, lui et sa femme sur une plage, et sa femme entourée de petits-enfants hindous, sans aucune légende, sans aucun contexte, j'en suis encore perplexe. Alors apparemment, il a toutes ses chances d'être élu, non pas parce qu'il est le meilleur, non pas parce qu'il est malin, mais parce que les autres sont pires, et surtout parce que les autres partis n'ont pas envie d'élire les autres. Alors, oui, je vais vous parler des autres par après, mais il faut savoir... Dis-moi, Yann.
Non, c'est très heureux qu'en Suisse romande, ce soit pas Oscar Freisinger qui ait remporté l'investiture du parti, d'ailleurs.
On en serait pas là, je pense.
Oscar Freisinger qui est un homme délicieux, bisous sur la nuque de cheveux, voilà.
Aussi, le chercher sur Google.
Oui.
Mais on vous conseille pas.
Voilà.
Alors, Guy Parmelin, donc, je vous disais, n'est pas le meilleur, mais les autres partis n'ont pas envie d'élire ses rivaux. Seulement, voilà, Monsieur Blocher, qui est le grand Manitou, c'est comme le grand Schtroumpf, en fait, de l'UDC, puisqu'on parlait des Schtroumpfs tout à l'heure, a un favori qui n'est pas Monsieur Guy Parmelin. Et Monsieur Blocher contrôle aussi la Weltwoche, qui est un journal hebdomadaire. Et donc, apparemment, des journalistes de la Weltwoche ont contacté les proches de Guy Parmelin pour chercher à lui inventer un problème d'alcool. Mais enfin, si vous êtes un tout petit peu familier avec le canton de Vaud, chercher un problème d'alcool à un viticulteur vaudois, c'est un peu chercher la botte de foin dans l'aiguille. Enfin, je veux dire, les électeurs s'inquiéteraient s'ils n'avaient pas de problème d'alcool. Donc, le rusty graben est toujours,
et puis,
toujours aussi profond.
Si tu veux chercher un problème d'alcool à un élu UDC, il faut aussi contacter Yvan Perrin, ça va plus vite. Hein,
Oui, alors, enfin, c'est pas avec ça qu'on fait tomber des politiciens en Suisse. Voilà. Donc je vous parlais de Monsieur Blocher, qui a un petit préféré parmi les candidats. Et le préféré de Blocher, c'est Monsieur Thomas Eichy, 36 ans. C'est le seul candidat à qui on ose appliquer des métaphores animalières parce que son physique le permet. Alors on l'appelle le loup ou le renard futé ou la fusée. Enfin, c'est pas un animal, mais on l'appelle aussi la fusée. Donc Thomas Eichy est un économiste originaire de Zug. Qui parle, lui, il parle français, il parle anglais, il parle Schweizerdeutsch et il a étudié à Harvard. Waouh, ça pète. Il essaye un peu de se faire passer pour le jeune cool. Et on trouve d'ailleurs beaucoup de selfies sur son site de campagne sur lesquels il louche légèrement, mais enfin, on peut pas lui en vouloir, c'est pas de sa faute. Il a étudié à Tel Aviv et en Malaisie. Enfin, il a fait des échanges universitaires là-bas, ce qui en fait un candidat ouvert sur le monde. Chose tellement rare à l'UDC que Christophe Blocher essaye de l'adopter frénétiquement, malgré le fait que Thomas Eichy n'a apparemment pas hyper envie d'être vu comme le fiston de Blocher. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il pourrait manquer le coche, puisque les autres partis n'ont pas du tout envie de faire plaisir à Monsieur Blocher, avec ou sans renard malin. Et Thomas Eichy, pour vous parler très très brièvement enfin vous donner une idée de son profil politique. En Suisse, nous avons une plateforme internet qui s'appelle smartvote.ch sur lequel les papables répondent à une série de questions et puis ça crée ce qu'on appelle une carte électorale qui est une infographie visuelle qui vous montre quelles sont les orientations politiques de tel ou tel candidat. Donc s'il est plutôt ouvert sur le monde, s'il est plutôt libéral ou conservateur, quels sont son degré de soutien, par exemple, aux politiques de sécurité, etc. Donc, M. Thomas Eichy a purement et simplement refusé de participer à smartvote.ch en jugeant que les questions qu'on y posait étaient trop à gauche. Okay. Ça vous donne une petite idée sur le personnage. Mais attendez, ce n'est pas tout. Le troisième candidat s'appelle Norman Gobi. Alors, Norman Gobi, ce n'est même pas un élu UDC, c'est un élu membre de la Lega. La Lega... C'est un parti d'extrême droite du Tessin. Le Tessin étant le plus grand canton italophone de Suisse.
Et le seul, d'ailleurs.
Oui, mais y a des gens parlent aussi italien au grison, alors je voulais pas...
Oui, il y a des gens qui parlent italien à Genève aussi, à ce compte-là.
Oui, certes. J'avoue. Donc, au Tessin, on parle italien et on parle aussi italien ailleurs. Je refuse. Et donc, ce Norman Gobi, c'est un consultant en marketing de 38 ans qui, dont le plus grand avantage est justement le fait qu'il vienne du Tessin, puisque malgré le fait qu'on trouve environ 10% de la population suisse dans les zones italophones, le Tessin et les zones italophones n'ont plus été représentés au Conseil fédéral depuis 16 ans. C'est vous dire notre traitement des minorités au gouvernement. Mais à part ça, monsieur Norman Gobi n'a pas tout du candidat qui fait rêver pour être un conseiller fédéral. D'ailleurs, dans une des interviews que j'ai lues ce matin, il précise littéralement « Je ne suis pas le diable ». Juste pour mettre les choses au clair, la première chose qu'on voit sur le personnage, c'est qu'il a besoin de vous dire qu'il n'est pas le diable. Alors enfin, certes, cette année, il s'est fait remarquer par sa demande que les frontaliers italiens fournissent un extrait de leur casier judiciaire lorsqu'ils demandent un permis de séjour au Tessin. Alors pourquoi pas, c'est un peu c'est un extrême droite, j'imagine que ça vous surprend pas trop. Petit problème, c'est que c'est illégal en Suisse.
Ah.
Ça dénonce un accord bilatéral sur la libre circulation avec l'Union Européenne.
C'est dommage.
Mais enfin, ça n'a pas l'air de trop déranger M. Norman Gobi, qui n'est pas revenu sur sa position, malgré le fait que le ministère italien des Affaires étrangères l'ait convoqué pour qu'il s'explique devant eux. Alors, j'imagine qu'il s'est un peu fait taper sur les doigts, mais bon, il a la peau dure, ça n'a rien changé. En juin de cette année, durant les mois sensibles de la crise migratoire, M. Norman Gobi avait demandé rien de moins que la fermeture de la frontière. Comme en 40, hein. Et une autre chose qu'il faut savoir sur lui, c'est qu'il est fan de hockey. Alors c'est très bien le hockey, c'est un des sports que les Suisses aiment beaucoup. Il a été directeur du club tessinois d'Ambri Piotta, et il écrit des posts de blog dont un s'appelle « Le hockey, c'est comme la politique ». Alors on ne sait pas s'il parle de hockey ou de politique, on a l'impression qu'il confond un peu les deux de temps en temps. Mmh. Et si on se tient en fait à son profil de hockey-phile, on peut douter de son fair-play, puisque en 2007, il a été condamné à 2000 francs d'amende pour avoir traité un joueur de hockey, le seul africain de l'équipe tessinoise, pour l'avoir traité de nègre.
Ah, mais bien, mais oui, mais oui. Évidemment.
Voilà, c'est lui.
Mais bien sûr.
Alors, il assure qu'il a, Monsieur Norman Gobi, donc, assure avoir beaucoup appris de cette histoire. On est très heureux pour lui. Et à la question d'un journaliste qui
maintenant,
lui
demande... Maintenant, il traite les gens de mecs en privé.
Voilà, alors à la question du journaliste qui lui demande s'il est raciste, M. Norman Gobi répond « Si vous pensez que je suis raciste, c'est que vous ne connaissez rien au hockey. » Je suis toujours perplexe, je ne comprends pas cette phrase.
Oui, parce que c'est bien connu, au hockey, on encourage les gens à crier en nègre.
Voilà, c'est...
Apparemment.
Enfin, j'imagine que du coup, je ne connais rien au hockey, ou alors je ne connais rien à la politique. Ce qui est sûr, c'est que... Quoi qu'il arrive, nous aurons un candidat haut en couleur au Conseil fédéral en décembre de cette année. On va vous tenir au courant, évidemment. Et on sait que vous ne vous tenez pas d'impatience de savoir lequel de ces trois lascars va représenter l'UDC à Berne.
C'est quand même marrant que tu dises haut en couleur pour un mec raciste. Sans transition, passons au monde merveilleux de la nature.
Oui, la nature suisse quand même, parce qu'on ne va pas, quitter nos...
Avec cette brève
prairie, hein, et sa faune.
Avec cette brève extraordinaire, c'est une dépêche ATS qui nous l'a appris la semaine dernière. Les chevaux sont très appréciés des zoophiles suisses. Oui, évidemment. Mais derrière l'opportunité journalistique de sortir la zoophilie de sa poche pour surprendre et choquer le lecteur, se cachent des statistiques très sérieuses et franchement inquiétantes.
Ah oui, je.
Selon la fondation suisse-allemande Tier im Reich, donc le droit des animaux, le nombre de procédures pénales ont triplé dans les 10 dernières années. On a compté 1709 cas en 2014 contre 1542 en 2013, ce qui dans un petit pays comme la Suisse est vraiment, vraiment beaucoup. Inconcevablement beaucoup. Je ne regarderai plus les fermiers et les employés de zoo de la même façon, personnellement. Le nombre de cas est tellement grand que dans certains cantons, on monte jusqu'à 330 par an, ces cantons-là ont décidé de créer des dispositifs spécialisés dans la poursuite de violeurs d'animaux. Hasard des statistiques, c'est dans le canton de Neuchâtel que l'augmentation annuelle est la plus spectaculaire. De 3 cas en 2013, on en a compté 56 l'année suivante, soit une augmentation de plus de 1700%. Andreas Ruttimann, juriste et membre de Tier im Reich, pense même que les chiffres donnés ne sont, je cite, que la pointe de l'iceberg. Ces violences sexuelles ne sont pas qu'en augmentation absolue, mais aussi relative. 9,4% des violences faites aux chevaux ont un caractère sexuel, ce qui est là encore regrettablement beaucoup. La dépêche se termine sur une estimation qui ne fera plaisir à personne. Il y aurait en Suisse plusieurs dizaines de milliers de personnes à tendance zoophile. Alors, j'ai sorti ma calculatrice. Plusieurs dizaines de milliers de zoophiles. On va arrondir ça à 20 000 pour rester optimiste. Hein. Plusieurs milliers, c'est forcément à partir de 2 dizaines de milliers. La population suisse actuellement, elle est autour des 8,2 millions d'habitants. Cela ferait donc au moins 0,25% de la population suisse qui aurait au moins des tendances zoophiles.
Voilà, et encore ici, on parle uniquement des chevaux, donc. Hein.
Non, en général, les tendances zoophiles pour le
bon,
coup.
Quand même,
alors, bon, tout ça, ça me fait dire que finalement, t'as bien fait de partir étudier à l'étranger, Emilie.
Oui, alors moi et mon cheval, on se sent vachement mieux en République tchèque.
J'en parlerai à mon cheval. Excellent. Voilà. Très bien, et eh bien c'est sur cette brève d'une qualité...
On va vous laisser aller parler à vos chevaux respectifs, s'il vous plaît, soyez sympas avec eux, mais pas trop.
Voilà, on vous souhaite évidemment de bonnes fêtes de fin d'année.
Oui, alors c'est vrai, c'est bien vrai.
C'est bien vrai, on se retrouve au début de l'année 2016.
Je n'avais même pas réalisé que c'était le dernier épisode, t'as vu.
Bah oui, bah oui, mais écoute,
on va vous retrouver tout frais et tout plein de pudding.
Oui.
En janvier. Alors,
oui.
On vous fait des bisous.
Oui.
Et on vous remercie de votre fidélité.
À bientôt. Cool, hein. Allez, ciao.
Ciao.
Ooh-hoo. I came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh-hoo. Ooh-hoo. I felt a little fear upon my back. I said, don't look back, just keep on walking. Ooh-hoo. Ooh-hoo. When the big black horse said, look this way, he said, hey, that day, will you marry me? Ooh-hoo. Ooh-hoo. But I said, no. You're not the one for me. No, 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 no. I said no, no. You're not the one for me. Ooh. And my heart hit a problem in the early hours, so I stopped it dead for a beat or two. Ooh. But I cut some cord and I shouldn't have done it, and it won't forgive me after all these years. Ooh. Ooh-hoo. So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh-hoo. Ooh-hoo. Now I won't come back cause it's all so happy, and now I got a hole for the world to see. Ooh-hoo. Yeah. Ooh-hoo. And it said no, 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 no. Said no, no, you're not the one for me. No, 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 no. Say no, no. You're not the one for me. Ooh.
Salut, c'est Pipo.
Salut, c'est Gotoz.
On vous propose d'embarquer avec nous tous les mois pour écouter de la bonne musique de jeux vidéo.
Du récent ou du rétro, de la console ou du PC.
Tant que ça sonne, ça nous va. Des thématiques, de l'actu, des reprises et des invités. Le tout enrobé d'anecdotes.
Pendant 2 heures, on passe la musique de vos jeux préférés.
Et on s'intéresse à ceux qui la font.
On est les démons du midi, tous les mois sur Radio Kawa.
Vous aimez les émissions produites par Radio Kawa et vous aimeriez pouvoir nous donner un petit coup de pouce? Rendez-vous sur patreon.com/radiokawa et devenez mécène de nos émissions en public, de notre nouveau matériel et de bien d'autres projets visant à améliorer le Radio Kawa que vous connaissez et que vous aimez. Radio Kawa ne touche aucun revenu publicitaire. Alors à vous de jouer sur patreon.com/radiokawa.